L'invité de la rédaction.
18 avril 2015. À la nuit tombée, un bateau sans nom coule à 70 milles des côtes libyennes. Les rares rescapés parlent de 800 naufragés. C'est la tragédie la plus meurtrière en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. On ne connaît ni le nom, ni même le nombre exact des victimes.
Bateau et tragédie sans nom, sans histoire aussi spectaculaire que devenue banale. J'en parlais dans le journal. Oui, mais voilà, quelques bouts d'une lettre, lettre d'amour retrouvée au fond des mers, quelques mots conservés au milieu de photos délavées, écho d'une vie qui demeure et persiste entre les ossements mêlés et les tapis détrempés. Dans le film documentaire dont nous allons parler aujourd'hui, les absents se dessinent comme les contours d'un livre sur un mur de poussière, des morts qui cherchent leurs mots dans la nuit noire, des morts qui ont droit à la vie, pas seulement espérer. Une histoire qui se raconte par le fil de ceux qui enquêtent et en tête à les écouter, accrochés aux plus petites bribes d'un monde au seuil de son oubli, prenant eux-mêmes un peu les airs d'hommes et de femmes perdus en mer. C'est l'histoire de 800, peut-être 1000, personnes noyées, mortes noyées. Le 18 avril 2015, c'est aussi l'histoire d'un homme amoureux, le numéro 387 disparu en Méditerranée. Bonjour Madeleine Leroyer.
Bonjour, merci pour vos mots. Très émue.
Merci d'être avec nous, car en effet, j'ai choisi d'évoquer quelques images qui sont issues de votre film numéro 387, Disparu en Méditerranée, un documentaire que vous avez réalisé et coécrit avec Cécile Debarge et qui sera diffusé sur Arte mardi prochain à l'antenne à 22h20, mais que l'on peut d'ores et déjà retrouver en ligne sur arte.tv. Et c'est en effet la force de votre film, donner à voir, à entendre une histoire particulière au cœur d'une immense tragédie. C'est votre point de départ peut-être. Donner à voir ce que l'on ne voit plus, justement, ce particulier envers et contre le nombre, la litanie, toujours et encore, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans le journal, toujours plus.
Et c'est intéressant ce mot de litanie, parce que la litanie, c'est une prière. Là, on n'a même pas une prière, on est dans l'évocation permanente des chiffres qui nous ramènent au flux, à la masse. Et l'intention du film, dès l'écriture, c'est effectivement d'être en rupture avec cette rhétorique du flux, de l'invasion. Et pour ça, revenir à la personne dans ce qu'elle a laissé de peut-être plus fragile, plus infime. Le sujet dans ces traces. Le sujet, c'est le père, le frère, la sœur, l'amoureux, l'amoureuse. Et alors ça, c'est l'intention très forte partagée avec Cécile Debarge. Comment la réaliser, comment la mettre en récit, ça a été le défi de ce film qui suit une opération totalement inédite, tentative d'identification des victimes de ce naufrage avec une chaîne humaine d'anthropologues légistes en Italie, d'humanitaires, de la Croix-Rouge internationale et autour d'eux une galaxie de personnages qui sont des chercheurs, qui sont des réfugiés eux-mêmes, qui sont des rapatriés de Libye et qui se joignent pour former cette chaîne qui va faire reculer l'oubli.
Parce que c'est le paradoxe, mais c'est ce qui va nous tenir en haleine, c'est en effet d'aller chercher ce particulier au cœur d'une tragédie elle-même immense. C'est-à-dire, si vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé déjà le 18 avril 2015 et finalement ce qui a permis d'aller rechercher ces petits indices, c'est une décision quand même qui a été prise. Donc cette histoire, en fait, voilà, quelle est la trame de votre histoire ?
Alors effectivement, dans cette tragédie quotidienne de la Méditerranée qui dure... Enfin, certaines associations comptent depuis 1993 et arrivent à un décompte d'au moins 40 000 disparus depuis 1993, dont plus de 20 000 depuis 2014. Il y a ce naufrage du 18 avril 2015. Très vite dans la presse, les témoignages des très rares rescapés, 28 personnes, font état d'un bilan inédit. 700, 800 morts, peut-être plus. On sait aujourd'hui que c'était bien plus, probablement 1000, 1050 personnes à bord du bateau. Et Matteo Renzi, à l'époque, le chef du gouvernement italien, dit « nous allons renflouer l'épave, plus jamais ça hein, », ce mot qu'on entend si souvent, cette incantation, « et nous allons renflouer cette épave et nous identifierons les victimes de cette tragédie ». C'est une déclaration politique. Beaucoup en Italie, et nous qui observions, on avait l'impression que ce ne serait pas suivi des faits. Et en fait, à l'automne 2015 et dans le début de l'hiver 2016, on se rend compte que si, que ça y est, les travaux exploratoires au fond de la mer à 370 mètres de profondeur ont démarré, que des robots sont en train de remonter les premières dépouilles trouvées autour de l'épave. Et après plusieurs tentatives, de longs mois, une opération extrêmement coûteuse, qui a coûté quand même 9 millions d'euros, les autorités italiennes parviennent à renflouer cette épave qui arrive donc sur cette base militaire de Sicile au début de l'été 2016. Et c'est là que, pendant des mois, Cristina Cattaneo et ses équipes vont, dépouille après dépouille, mener un travail d'autopsie et de recherche extrêmement méticuleuse des effets personnels. Ça, c'est assez remarquable, dans le but de récolter un maximum d'informations qui ensuite seront recoupées avec des informations recueillies auprès des familles. Et c'est là que rentre la Croix-Rouge internationale, qui va tenter d'aller rechercher les vivants et de rétablir ce lien entre les morts et les vivants. Parce qu'en fait, voilà, l'identité, le droit à l'identité, c'est un peu conceptuel, mais c'est précisément le droit au rétablissement du lien entre les morts et les vivants, les morts, les disparus, qui manquent à ceux qui restent.
Mais on observe, c'est vrai, au fil de cette équipe, cet attelage finalement qui va justement s'entêter comme ça à décrypter les signes, tout ce qui va être ainsi repêché de cette épave. Et c'est vrai qu'on découvre donc le travail des anthropologues médicales en charge donc des victimes, et notamment ce personnage de Cristina Cattaneo que je vous propose d'écouter, extrait de votre film.
Quand tu observes les morts, une image très nette apparaît. On voit très bien, en regardant dans leurs poches, leurs vêtements, tout ce qu'ils ont écrit dans leurs bloc-notes, leurs carnets. On a vraiment la sensation de personnes qui veulent faire quelque chose de nouveau, qui veulent refaire leur vie ailleurs. C'est comme une photographie encore intacte et pure de leurs espoirs. En même temps, tu les vois morts, décomposés, tu vois que pour eux tout est fini. Et là, tu prends conscience avec une grande clarté de la tragédie, du risque qu'encourent ces personnes. C'est en cela qu'ils sont éloquents.
Madeleine Leroyer, Cristina Cattaneo nous parlait là, dans votre film, de cette manière de rendre la mort éloquente. Justement, c'est finalement aussi ce travail de faire apparaître votre travail de réalisatrice et de montrer ce qui, à la base, est invisible. C'est-à-dire d'arriver à filmer quelque chose qui échappe, en général, à la vision. Et vous avez là des experts en vie.
Oui, c'est un peu des sorciers, presque. Oui, il y a quelque chose de magique, et ça, c'est la rencontre, pour moi, avec le cinéma, se fait par ce film qui est mon premier film, et j'en suis bouleversée, c'est-à-dire d'arriver à convoquer le vivant au milieu d'un tableau extrêmement brutal et macabre. Cristina, elle dit précisément que les morts sont éloquents, et quand on discute avec elle, elle dit souvent qu'ils sont même plus éloquents que les vivants. Parce que voilà, il y a cette image arrêtée d'un élan, d'une vie, et ça, je crois aussi que c'était très fort dans les intentions du film, c'est d'être à rebours d'une vision misérabiliste des migrants, des réfugiés, des pauvres réfugiés, parce qu'ils sont dans un moteur, un élan de survie, de vie, quelles que soient les raisons de leur départ. Ce bateau du 18 avril 2015, un chalutier de 24 mètres, aujourd'hui on comprend que À peu près la moitié des passagers étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, du bassin de la région du bassin du fleuve Sénégal, donc Sénégal, Mali, Mauritanie, et la moitié d'Afrique de l'Est, Érythrée, Éthiopie, Soudan. Donc en disant ça, on suppose déjà que les raisons des voyages sont différentes. Mais voilà, pour revenir à ça, il y a cette vie en mouvement, arrêtée brutalement, et les personnages du film qui vont aller rechercher la vie passée des personnes et la connexion avec les vivants qui restent et qui sont dans l'impossibilité de faire le deuil, qui cherchent, qui savent sans savoir et qui... Voilà, qui font l'expérience très douloureuse d'une perte non résolue. Et je crois que c'est le sens du travail. Et d'ailleurs, un des personnages du film, Giorgia Mirto, le dit, honorer les morts, c'est servir les vivants. Donc, ce n'est pas une quête abstraite, ce n'est pas pour se gargariser ou se donner bonne conscience. Je crois vraiment que dans le cœur des personnages du film, il y a cette intention sincère de... chemin vers les vivants. Voilà.
De cette vie en cours qui est en effet brisée là, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le mythe d'une vie espérée, d'un après qui viendra ou ne viendra pas, chance ou pas chance, malheur ou drame ou tragédie, c'est une vie en cours qui est brisée et c'est là qu'on trouve peut-être la trace du numéro 387. On écoute le passager 387 de ce bateau.
Je ne te dis pas des choses très... mon amour. J'espère te retrouver. Je t'attends avec espoir. La paix. Je ne te dis pas des choses très amour. J'espère te retrouver.
Goodbye. For Oluiti. Maybe.
Oluiti, une femme. C'est peut-être le nom d'une femme, Oluiti. C'est écrit pour elle. Un homme qui s'adresse à une femme. Il parle d'elle. Oui, je pense que c'est bien lui qui écrit pour elle. Je vois cette personne. C'est un jeune homme éthiopien. Assez beau. Doux. Pas vieux. Il n'est pas vieux. Il est jeune. Sa façon d'écrire « I love you » des trucs de jeune.
Le passager, donc 387 de votre film, Madeleine Leroyer.
Évoqué par Abraham Tesfaye, qui est érythréen, réfugié en Italie depuis de nombreuses années, et qui a découvert avec nous le sens de cette lettre écrite en amharique et donc qui nous échappait un petit peu. Je dis merci à Abraham parce que lui-même s'est saisi quand il dit « je vois ce jeune homme ». C'est pas moi qui lui demande « est-ce que vous imaginez à quoi ressemble ce jeune homme ?» Vraiment, il a cette formidable intelligence de vie, Abraham, et il s'est immédiatement saisi de la singularité de la personne et il a embrassé cette quête. Il faut voir que pour les Érythréens et les Éthiopiens, ce naufrage du 18 avril 2015 n'était pas, jusqu'à ce qu'Abraham intervienne très fortement sur Facebook, mais n'était pas identifié, n'était pas un repère. Les Érythréens sont très marqués par le naufrage du 3 octobre 2013 qui s'est produit aux abords immédiats des côtes de la petite île de Lampedusa. C'est un bateau sur lequel il y avait quasiment exclusivement des passagers érythréens. Donc, ils ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir des réponses et des identifications pour les victimes de ce naufrage de 2013. Et ce naufrage de 2015 était passé un petit peu sous les radars de leur tragédie. Et grâce à Abraham, je peux dire que maintenant, il est identifié et que cette chaîne humaine, cet effet de est-ce que tu connais, est-ce que tu serais d'accord de parler, est-ce que tu es prêt à revenir sur cette expérience extrêmement douloureuse pour avancer dans les recherches, ben, je crois que ça, c'est en marche, oui.
Alors, Abraham, qui participe en effet de cette chaîne humaine aux côtés de Pablo, donc par cette deuxième étape finalement du dispositif, après le travail de l'anthropologie médicale, qui consiste, et c'est la Croix-Rouge donc, qui l'organise dans votre film, à essayer de créer une méthode, alors qu'elle n'existe pas littéralement au départ, de se dire comment on pourrait faire pour restituer cette identité. Donc vous suivez ce qui ressemble quand même non seulement à un immense casse-tête, et en plus... voilà, extrêmement bricolé, en se disant sur quoi s'appuyer au fond dans cette quête.
Alors, c'est vrai que le défi pour José Pablo Baraybar, qui travaille au Comité international de la Croix-Rouge, c'est de faire en sorte que cette institution, qui a plus de 150 ans, regarde la question de façon totalement nouvelle. La Croix-Rouge, historiquement, cherche les disparus à la demande expresse des familles. Et pour le dire très simplement, ils savent comment opérer quand une mère de Srebrenica vient leur dire « Mon fils a été enlevé tel jour, je pense qu'il est dans ce charnier. » Quand il y a des dépouilles et qu'il faut faire le chemin inverse, des dépouilles vers les vivants, qui dans le cas de la migration ne sont pas dans le village d'à côté, mais sont disséminés dans plus de 15 pays à travers le monde, du Bangladesh au Sénégal en passant par la Corne de l'Afrique, là, c'est pas de la science nucléaire, mais c'est simplement d'apprendre à essayer de réfléchir différemment. Et donc, oui, il pense « out of the box », comme il dit souvent. Rien de... comment dire, c'est pas les experts à Miami, enfin c'est pas de la science pointue, c'est du bon sens et un travail de détective qui se saisit avec une forme d'opportunisme mais sain de tous les relais possibles, et je pense que José Pablo est effectivement l'un des premiers à avoir saisi que dans cette matrice de la quête, un témoin du départ du bateau, un survivant, le frère, la sœur, quelqu'un qui avait eu un échange au téléphone, voilà, quelques minutes avant le départ, eh bien, ils sont aussi importants qu'une institution qui a 150 ans et qui mène ce travail de façon classique et qui demande urgemment à être revisité.
Mais on voit, parce qu'il y a aussi Madeleine Royer, un autre personnage encore, très, très, très. D'ailleurs, dont on voit les cheveux pousser au fur et à mesure du film, donc qui nous indique que le temps passe au fur et à mesure de cette enquête qui prend énormément de temps. On parle de. Vous avez tourné pendant combien de temps ?
Les premiers repérages démarrent en 2016 et la toute dernière interview date de janvier 2019, donc plus de 3 ans, presque 4 de travail. Ouais.
Et 3 ans justement qui se matérialisent un peu donc au fil de ces personnages, notamment celui de Giorgia Mito, qui est chercheuse, qui recense les migrants enterrés en Italie et qui littéralement déterre, c'est retourne aussi la perspective au gré justement de ce dispositif mis en place par la Croix-Rouge internationale, et qui et partir des morts, c'est repartir du sens qu'on donne à cette mort. Et c'est vrai que d'observer les conditions, les rites funéraires qui sont aussi associés, ou leur absence, ou la manière dont ils viennent se substituer à des morts oubliées aussi sur le territoire italien, on a cette espèce de renversement qui interroge profondément ce rapport à la mort en Europe, en Occident, comme en Afrique, où c'est, la traversée, c'est aussi celle qui interroge finalement le sens qu'on donne collectivement à la mort, finalement.
Absolument. Alors, Giorgia Mirto, c'est une palermitaine. Elle opère dans le champ des sciences sociales avec une approche d'anthropologie classique, pour le coup pas forensique. Et je crois qu'elle est très, très nourrie, effectivement, de travaux comme ceux de Judith Butler sur ces morts sans deuil. Ce qu'elle fait très concrètement, c'est qu'elle sillonne depuis des années le sud de l'Italie et particulièrement la Sicile pour aller dans les archives de chaque municipalité, inspecter les registres des actes de décès, chercher, là il y a écrit sconosciuto, inconnu, alors c'était quand, c'était là, hein, et recouper avec la présence physique de ces morts inconnus dans les cimetières italiens. Et c'est son travail est extrêmement important parce qu'il est le seul qui puisse permettre, en cas d'identification, eh bien, qu'une famille sache précisément où est enterré son fils, sa fille, son proche. Voilà. Alors, au-delà de ça, son travail qu'elle fait dans une approche donc universitaire et en collaboration avec la Croix-Rouge internationale nous donne une idée de cette tragédie, puisque on sait, grâce à des personnes comme elle, ils sont plusieurs comme elle dans les territoires sud de l'Europe, qu'autour de 15%, à peine 15% des corps des victimes sont récupérés et inhumés de Grèce, de la Grèce à Gibraltar. Donc, une identification formelle au sens de pouvoir retirer l'ADN d'une dépouille et comparer avec l'ADN de famille, ça n'arrivera pas pour tout le monde. Et donc, ce travail ouvre des questions vertigineuses. Quelle réponse donne-t-on à ces familles pour lesquelles il n'y aura pas de corps, il n'y aura pas d'identification formelle. Et je crois qu'elle, elle renverse la perspective puisqu'elle dit honorer les morts, c'est servir les vivants et que notre civilisation, que nos sociétés humaines se mesurent précisément à la façon dont elles traitent les morts.
Pour moi, du côté où je me trouve, je pense qu'on doit un respect à l'autre vivant, pour commencer, et mort après, dans cet ordre. Mais vivant, pour commencer.
Madeleine Leroyer, un dernier extrait de votre film, de Pablo, justement, à la tête de ce dispositif de la Croix-Rouge internationale, qui rappelle cet ordre, justement, qui est... qu'il ne s'agit pas d'une quête morbide, qu'il ne s'agit pas justement de ce misérabilisme que vous dénonciez au départ, mais qui consiste effectivement à saluer la vie, mais la vie d'une société tout entière capable de regarder ses morts, les nommer.
Ne pas nommer ses morts, c'est ne pas nommer leur histoire et la nôtre, et c'est ne pas leur accorder de valeur, c'est ne pas accorder de valeur aux vivants. Et donc, cette tautologie que dit José Pablo, je crois qu'on doit un respect à l'autre, vivant d'abord et mort ensuite, effectivement, c'est la phrase qui clôt le film et elle nous tient, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma productrice, elle nous tient particulièrement à cœur parce que, effectivement, c'est le hors-champ du film. Chaque jour, des personnes tentent de rejoindre l'Europe et ça ne concerne pas uniquement l'Europe. On pense évidemment à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On peut parler de l'Asie du Sud-Est. Chaque jour, des personnes empruntent des chemins de la migration toujours plus dangereux du fait des politiques de fermeture des frontières. Chaque jour, ce sont des vies humaines dotées chacune de valeurs intrinsèques qui se perdent ainsi.
Et d'ailleurs, c'est un film qui, nécessairement, en fait, intrinsèquement, est forcément militant. C'est-à-dire que vous vous battez, là, quelque part. C'est une manière... ces images-là, elles ne sont pas là pour s'enfuir ou couler.
Alors, c'est un film militant dans le sens où ça fait maintenant près de 3 ans que l'équipe du film réfléchit à la façon de lui donner une vie la plus utile possible. Et c'est ce qui fait que nous avons monté avec le film une campagne d'impact qui s'appelle « Un nom pour chacun » en français et « Numbers into Names » en anglais. Cette campagne, elle a pour but de sensibiliser, d'alerter sur le sort de ces disparus et de leurs familles. Hein, j'insiste vraiment sur le fait que ce sont derrière autant de vivants qui restent dans cette peine irrésolue. Très concrètement, d'amener le film aux familles dans les pays d'origine et ici, avec des circuits de cinéma mobile. Celui sur lequel on travaille le plus fort en ce moment, c'est un circuit au Sénégal, au Mali et en Mauritanie. Alors évidemment, en temps de pandémie, je vous dis cinéma mobile en Afrique, ça fait un peu chimérique, mais on va y arriver. Et on a pour ça fait un financement participatif au printemps qui a bien fonctionné. Il manque de l'argent. Donc on a un site internet... dont l'adresse est un petit peu longue parce que c'est un site gratuit, mais que vous pourrez retrouver, j'espère, sur la page de l'émission.
En effet, Madeleine Leroyer, on mettra toutes les informations justement pour suivre et poursuivre et faire cette traversée dans l'autre sens aussi, on l'espère, pour la suite de ce film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous donc avec ce passager 387 disparu en Méditerranée qui est donc diffusé, qui sera diffusé mardi 8 septembre à 22h20 sur Arte. Il est d'ores et déjà disponible sur arte.tv. Il l'est depuis 2 jours déjà. On lui souhaite la plus longue vie possible et on se quitte avec une pensée d'ailleurs pour les morts mais aussi pour les vivants puisque tout ça marche ensemble. C'est Verdi qui nous accompagne.